qui nous a rejoint en studio.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream. It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
A nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir et bienvenue dans l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Eric Vanilakiza avec vous, Lionel Namira Gariba assure la mise en onde. Un ballon chinois a été abattu le 4 février alors qu'il survolait les États-Unis. Cet incident a provoqué un nouveau refroidissement des relations entre Washington et Pékin. Le président Joe Biden a assuré ce jeudi dans son adresse aux Américains que son pays ne veut pas d'une nouvelle guerre froide. Quel pourrait être l'impact sur l'Afrique, un continent de plus en plus convoité par les deux pays? Comment tisser des relations saines dans l'intérêt de l'équilibre mondial? Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Encore une fois, bienvenue chers fidèles auditrices et auditeurs de VOA Afrique. Nous sommes en ligne avec Mohamed Bodj. Il est historien et professeur à Manhattanville College à New York. Professeur Bodj, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue dans l'Amérique et vous.
Merci.
Nous avons Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique. Monsieur Cohen, vous êtes là, vous nous entendez, bonsoir.
Bonsoir, je suis là.
Et bienvenue dans l'Amérique et vous.
Merci.
Nous aurons dans un moment à l'autre Ismaël Diallo, qui est défenseur des droits de l'homme et ancien haut fonctionnaire international. Il va nous rejoindre tout de suite. Il est à Ouagadougou, au Burkina Faso. Herman Cohen, je vais commencer avec vous. Vous avez suivi l'allocution du président Biden. C'était ce jeudi soir. Quel est le sens que vous donnez à son adresse?
Écoutez, je crois que le président Biden ne veut pas avoir des histoires avec la Chine. La Chine est très importante pour les États-Unis. La Chine achète la plupart de notre production de soja, qui est très importante pour nos agriculteurs. Et en général, comme superpuissance, la Chine peut avoir beaucoup d'influence partout dans le monde, surtout en Afrique. Donc le président Biden a dit, il ne faut pas s'inquiéter, nous avons des bonnes relations avec la Chine et nous allons essayer de continuer ces bonnes relations. Il a rassuré les Américains que ça va avec la Chine.
Mais il n'a pas pour autant rassuré la Chine et les Chinois.
Oui, il a critiqué le ballon que l'armée de Chine a envoyé à travers le Pacifique qui a survolé les États-Unis. Et il paraît que c'était un ballon qui cherche des renseignements sur des facilités nucléaires des États-Unis. Et nous avons considéré ça comme acte d'agression. Et président Biden a condamné ça. Et il a dit c'est un acte contre notre souveraineté. Et les Chinois ont dit, oh, il exagère, c'est pas très important. C'est un ballon qui est pour chercher les renseignements de météo. C'est pas un ballon de guerre. Donc, c'était pas grave, mais il y avait une période de tension quand même.
Est-ce que c'était un message aussi de fermeté de la part du président Biden?
Je crois que oui. Il a dit que la Chine doit s'occuper de la paix et pas faire des agressions, surtout dans le monde. Par exemple, la Chine fait beaucoup d'infrastructures en Afrique pour influencer les votes dans l'ONU. et les États-Unis considèrent comme en concurrence déloyale.
Nous avons déjà en ligne M. Ismaël Diallo qui se trouve à Ouagadougou. M. Diallo, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue dans l'Amérique et vous.
Merci.
Oui. Professeur Mbodge, vous êtes historien. Quelle a été la lecture, votre lecture de l'allocution du président Biden?
Je crois que Biden a essayé de dire que nous ne sommes pas, disons, dans la deuxième partie des années 40, donc le début d'une guerre froide. En même temps, il a essayé de montrer la fermeté et la résolution à son audience, disons, nationale. En même temps, lancer un avertissement à la Chine, mais aussi à l'opinion publique internationale qui s'inquiète un tout petit peu de ce qu'elle considère comme une sorte de, d'augmentation de l'hostilité des Américains envers les Chinois. Et donc, ce sont ces trois tableaux qu'il a essayé d'aborder en même temps. Et je suis d'accord avec le secrétaire Cohen qu'effectivement, c'était un exercice d'équilibriste et on verra si cet exercice va atteindre son but.
Est-ce que vous pensez qu'il a eu raison de s'exprimer?
Ah oui, tout à fait, parce que il y a d'une part une sorte de montée d'un nationalisme va-t-en-guerre très facile défendre le territoire américain. Les Chinois sont en train de nous attaquer, etc. Et donc, il fallait montrer qu'il n'était pas faible de ce côté-là. Et de l'autre côté, il y a effectivement une montée de la surenchère sur le plan économique. Et on sait que simplement dire que nous sommes en compétition, mais en utilisant des moyens qui ne sont pas, disons, économiques dans cette compétition, ouvre la voie à une compétition politique et donc à une confrontation peut-être militaire et en particulier ce qui s'est passé en Ukraine. Certains pensent qu'en fait, c'est un scénario qui peut être appliqué à Taïwan. Donc, je vois en filigrane que Biden devait effectivement se prononcer sur tout ça pour calmer le jeu et en même temps montrer qu'il est résolu à faire face à la Chine, mais d'une manière raisonnée et réfléchie et pas d'une manière, disons, sentimentaliste ou émotionnelle.
Ismaël Diallo, vous connaissez les arcanes de la communauté international, vous avez assisté à plusieurs reprises à des réunions au Conseil de sécurité des Nations Unies où les deux géants de la planète siègent au Conseil de sécurité. Ils sont des membres, ils ont des sièges, ils ont le droit de veto. Comment vous percevez ce refroidissement actuel entre Washington et Pékin?
J'ai le sentiment que c'est la marque de l'histoire, en ce sens que les États-Unis, qui ont construit leur superpuissance depuis la Deuxième Guerre mondiale, sont obstinément jaloux de leur suprématie et n'entendent pas qu'un quelconque pays leur challenge cette suprématie. Ils voient venir la Chine du point de vue économique et peut-être bientôt du point de vue militaire. Alors, il faut tout faire pour ralentir au moins cette vitesse de croisière de la Chine. Mais bon, j'ai le sentiment également que les gouvernants du jour sont un peu trop dépendants de l'opinion publique. Exemple, le secrétaire d'État américain annule son voyage en Chine à cause du ballon qui serait venu de la Chine.
C'est un ballon chinois, parce que les Chinois, ils ont reconnu que c'était leur ballon. C'est un ballon chinois.
Comment?
La Chine a reconnu que c'était son ballon. Vous avez dit que c'est un ballon qui serait venu de la Chine.
Écoutez, vous avez la confirmation, moi je ne l'ai pas. Est-ce que la Chine a confirmé?
La Chine a confirmé, oui. C'est ce que j'étais en train de vous dire.
Bon, d'accord, ok.
Ouais.
Donc, un ballon chinois. D'accord. Mais est-ce que c'était l'option? Est-ce qu'il ne fallait pas mieux aller discuter de cela face à face avec les Chinois? Mais voici que le président Biden dit qu'il a envie de discuter avec son homologue chinois. Est-ce une manière de rattraper cet impair? Je ne sais pas. Les États-Unis ont on fait tomber, ont bombardé ce ballon chinois. Est-ce qu'il n'aurait pas dû le capturer et l'étudier? Mais c'est peut-être dans la mentalité américaine qu'il fallait être brutal et détruire ce ballon chinois.
Oui, vous avez parlé d'une certaine jalousie éventuelle du point de vue économique notamment, mais on sait qu'il y a beaucoup de capitaux américains en Chine.
Oui, vous savez, l'Occident a tendance à aller dans un sens et à s'apercevoir un peu plus tard qu'en réalité, il a fabriqué un monstre, il a fabriqué un ennemi. Les États-Unis ont entraîné l'Occident en Afghanistan et en Irak. On sait ce qui s'est passé. Les États-Unis ont énormément investi en Chine. Vous allez dans un magasin américain, presque six produits que vous trouvez sont fabriqués en Chine. Alors, et maintenant, ils s'aperçoivent que la Chine, économiquement, est en train d'avancer trop vite. Alors, il faut en rire pour ne pas en pleurer. Mais ainsi vont les relations internationales. Et c'est dommage qu'on en arrive là. Mais est-ce que c'était prévisible d'éviter cela? Je dis que c'est un peu comme, vous ne parlez pas de la Russie pour le moment, mais c'est un peu comme la Russie qui militairement fait très peur. Il faut donc trouver les voies et moyens pour affaiblir la Russie.
Je souligne que Washington a accusé d'espionnage le survol du territoire américain par cet aéronef chinois. Ambassadeur Cohen, je voudrais avoir votre réaction par rapport aux propos de M. Diallo.
Écoutez, je crois que nous avons oublié le plus grand sujet de dispute entre la Chine et les États-Unis, ça c'est le Taïwan. Nous sommes d'accord avec la Chine que le Taïwan et la Chine doivent faire un pays, mais nous refusons que la Chine prenne possession de Taïwan par la force. Donc, à cause de ça, nous vendons des armes à Taïwan. Nous avons une ambassade de Taïwan à Washington. Et c'est surtout la question de Taïwan qui est le plus grand sujet de dispute entre nos deux pays. Et quand l'ancien président de la Chambre des représentants au Congrès, Nancy Pelosi, a visité Taïwan, ça a enragé la Chine. Donc, à mon avis, cette question de Taïwan, c'est la plus importante raison pour la dispute et les problèmes entre les États-Unis et la Chine.
Ambassadeur Mbodge, plutôt professeur Mbodge, justement, cet engagement américain aux côtés de Taïwan face à la menace chinoise n'arrange pas les choses.
Oui, tout à fait. Et donc, et c'est un vieux problème qui avait été plus ou moins mis en sourdine et qui réapparaît de force, d'une part parce qu'il y a une volonté farouche et en tout cas d'une partie de l'opinion à Taïwan même de se détacher de la Chine. Donc, une nouvelle génération de Taïwanais qui peut-être n'ont pas dans la tête ce qui s'est passé jusque dans les années 50, 60, 70, d'une part. D'autre part, Taïwan est un pion essentiel dans les activités économiques américaines, en particulier le premier fournisseur de pièces détachées, de computers, de chips, comme on les appelle, de transistors, tout ça. Et donc, c'est important de garder cette ligne ouverte et non pas sous la tutelle des Chinois. Et troisièmement, il y a les ventes d'armement. Il ne faut pas se cacher donc la vérité, qui font aussi que lorsque Pelosi a visité l'île, c'était aussi pour dire que nous sommes prêts à vous vendre des armes et à faire l'après-vente, le service après-vente. Donc il y a bien des intérêts économiques au-delà des intérêts politiques et de la divergence diplomatique entre les deux États. Donc Taïwan est un élément extrêmement important. Maintenant, peut-on revenir un tout petit peu au statu quo où personne n'en parle et tout le monde est d'accord, plus ou moins, mais de ne rien faire, c'est ça plutôt l'enjeu. Comment peut-on faire rentrer dans la bouteille ce qui a été sorti et donc ce qu'on interprète comme des menaces d'intervention de la Chine pour, entre guillemets, reconquérir une partie de son territoire national, est-ce que c'est avéré ou est-ce que c'est simplement une sorte de bruit émis par Pékin pour dire aux États-Unis que eux aussi, les Chinois, sont prêts à se défendre et à se défendre jusqu'au bout.
Professeur Mbodge, les relations sino-américaines s'étaient déjà dégradées dans l'OTAN. On se rappelle de la visite de Richard Nixon en Chine en 1972, qui fut une étape importante pour normaliser les relations diplomatiques. Est-ce l'histoire qui se répète?
L'histoire se répète et ne se répète pas. Certes, la visite donc dans les années 70 a permis Nixon a permis de rétablir les relations, de rééquilibrer les relations, parce qu'à l'époque, il faut se souvenir quand même que la Chine et la Russie, les deux pôles du communisme mondial, n'étaient pas d'accord. Donc, en quelque sorte, les États-Unis pouvaient utiliser la Chine pour faire contrepoids un tout petit peu, ou en tout cas manipuler un peu cette situation de ménage à trois à ce niveau-là. Cette situation n'existe plus. Et en réalité, ce qui se passe derrière, c'est que la Chine interprète l'attitude américaine comme une sorte de poussée pour un rapprochement avec la Russie. Donc, paradoxalement, on assiste à un rapprochement entre la Chine et la Russie par rapport à ce que la Chine et la Russie interprètent comme des dictats américains, comme une agression américaine à peine couverte. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, on assiste à l'émergence de ce triangle, sauf que cette fois-ci, la Chine est en train un tout petit peu de dériver. Je ne dis pas qu'elle est déjà dans les bras de la Russie, mais en tout cas, elle est un peu en train de dériver dans cette direction, contrairement à ce qui se passait dans les années 70 avec la visite de Nixon.
L'incident du ballon souligne l'importance de conserver des voies de communication ouvertes entre nos diplomates et nos militaires, a insisté le président Joe Biden. Or, Pékin a refusé un appel téléphonique du chef du Pentagone, Lloyd Austin, après cette destruction. Ismaël Diallo, est-ce que vous y voyez le risque d'une nouvelle guerre froide? Est-ce que ce risque est-il réel?
Bien, je vais mettre le pied dans le plat en disant que je suis déconcerté et perplexe devant la position américaine vis-à-vis de Taïwan. Est-ce que les États-Unis lient à la Chine le caractère chinois de Taïwan? Les États-Unis savent pertinemment, je crois, que la Chine ne renoncera jamais, je crois également, à Taïwan. Alors, si l'insistance des deux côtés perdure, well, Ambassador Cohen, I'm sorry that we are on a collision course. Si cela continue, nous sommes en train d'aller vers un conflit latent ou violent ou ouvert. Ça dépendra du temps et ça dépendra de l'aveuglement des deux parties. Je pense qu'il ne doit pas y avoir problème figé. Et Taïwan, il n'y a pas de raison pour que ce soit une position figée et indiscutable, de qui que ce soit. Mais en insistant là-dessus, en faisant de Taïwan une question modale, une question cruciale, alors je crois que les États-Unis et la Chine auront toujours des relations susceptibles de se détériorer à tout moment.
Est-ce que vous voyez un risque quelconque d'une nouvelle guerre froide? Le président Biden a dit que Washington...
La guerre froide, en réalité, au mieux, hein, et on n'en était pas sorti. Mais comme d'habitude, vous savez, les soi-disant experts sont prompts à donner des nouvelles et à prétendre ceci ou cela. Rappelez-vous ce qu'on a appelé la fin de l'histoire. Ici, rappelez-vous ce qu'on a dit, la pensée unique, etc. Autant d'expressions qui ne veulent rien dire. Mais dites par certaines sommités, cela prend et tout le monde y croit. Alors, je crois qu'on n'est jamais sorti de la guerre froide. Il y a eu quelques éclaircies quand Gorbatchev était au pouvoir, au pouvoir en Union soviétique et en Russie. Il y a eu quelques éclaircies, mais je pense que des deux côtés et de la Chine, donc des trois côtés, la veille était permanente.
Herman Cohen, le risque d'une nouvelle guerre froide est-il réel?
Je ne crois pas. Les deux côtés savent qu'il faut avoir des relations constructives dans les intérêts des deux côtés. Je crois que vous allez voir avant la fin mars que le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, M. Blinken, il va partir en Chine, disons, la deuxième partie de mars, et il va insister pas nécessairement sur une relation amicale, mais une relation constructive. On va discuter les problèmes et on va trouver des solutions. Mais il y a quand même des problèmes. Une chose que le président Biden a dit, nous fabriquons trop de choses en Chine. Il faut commencer à fabriquer les choses aux États-Unis. Ça, c'est normal. Tous les pays ont les mêmes problèmes d'équilibre dans le commerce. Donc, en général, vous allez voir que les deux gouvernements sont intelligents et ils vont insister sur les relations constructives si ce n'est pas amical.
Professeur Mbodge, en décembre, il y a eu le sommet Afrique-États-Unis à Washington. Mi-janvier, la ministre américaine des Finances, Janet Yellen, a effectué une visite de 11 jours dans plusieurs pays africains. Au même moment, le ministre chinois des Affaires étrangères était également sur le terrain pour une tournée dans 5 pays d'Afrique. Les deux pays consolident leur présence là-bas. Une brouille de relations entre les deux pays, quel pourrait être l'impact sur le continent? Bodge? Professeur Mbodge.
Oui, je disais que l'Afrique peut très bien être le troisième larron, comme la petite histoire nous la raconte, mais en réalité, je crois que la Chine et les États-Unis cherchent deux choses différentes en Afrique. D'une manière générale, les États-Unis mènent une politique diplomatique avec la vieille méthode. Donc, on parle aux chefs d'État, on essaie de faire en sorte que les votes à l'ONU aillent dans un sens ou dans un autre. On veut renforcer la présence et la force des ONG pour que l'opinion publique américaine se sente très bien, nous faisons du bien à l'Afrique. De l'autre côté, la Chine a une politique un peu plus rigoureuse et un peu plus déterminée à investir et à avoir des relations économiques un peu plus profondes et un peu plus fondamentales avec l'Afrique. Et aussi, le symbolisme que la Chine déploie, le premier voyage de tout nouveau ministre des Affaires étrangères de la Chine est en Afrique. Il y a un ballet constant de ministres chinois en Afrique.
Merci, professeur Mbodj. Nous n'avons plus malheureusement de temps pour continuer la discussion. Merci au professeur Mbodj de Manhattan College, Herman Cohen, ancien ambassadeur, ancien diplomate américain, et Ismaël Diallo qui est à Ouagadougou, un défenseur des droits de l'homme. Eric Manilakis a été avec vous. Vous étiez dans l'Amérique et vous, Lionel Donanela Gahima a assuré la mise en onde.